Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Le roi du Maroc, Mohamed VI, en tournée dans la région du Golfe arabo-persique. Il est ce mardi aux Émirats arabes unis avant un déplacement officiel dimanche au Qatar. La veille, Mohamed VI a affirmé qu'aucun règlement du conflit du Sahara occidental n'était possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, rejetant toute solution autre que l'autonomie. Le Maroc maintient son engagement d'adhérer à la dynamique actuelle voulue par Antonio Guterres, le patron de l'ONU, et à coopérer avec son envoyé personnel, l'ancien président allemand Horst Köhler, a souligné le souverain marocain dans un discours télévisé lundi à l'occasion des 42 ans de la Marche verte dans l'ex-colonie espagnole. Les pays du Golfe sont les soutiens conditionnels de Rabat dans le dossier du Sahara occidental, grande priorité de la diplomatie marocaine. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a affirmé, à quelques mois de la présidentielle de 2018, qu'il n'avait pas l'intention de briguer un troisième mandat en 2022 dans une interview diffusée lundi soir sur la chaîne américaine CNBC. Anne Albertson fait le point.
Après son arrivée au pouvoir, M. Sissi avait éliminé toute opposition, islamiste comme laïque et libérale. Depuis, il dirige le pays d'une main de fer, s'attirant de nombreuses critiques à l'étranger au sujet du respect des droits de l'homme. Le président égyptien, ex-chef de l'armée, avait renversé en 2013 son prédécesseur, le président issu de la confrérie des frères musulmans, Mohamed Morsi, conduisant une répression impitoyable contre ses partisans. Il avait ensuite été élu en 2014 avec 96,9% des voix dans une élection sans opposant sérieux. Monsieur Sissi, élu pour un mandat de 4 ans, devrait se présenter de nouveau à la prochaine présidentielle prévue en 2018. À ce jour, l'avocat militant des droits de l'homme Khaled Ali est le seul candidat à s'être déclaré face à Monsieur Sissi pour l'élection de 2018.
Sahel, la toute première opération de la force conjointe G5 Sahel, qui mobilise quelques 500 soldats nigériens, burkinabés et maliens, s'est heurtée à des problèmes logistiques, mais pas insurmontables, selon le colonel-major nigérien Mahamadou Munkaila, qui commande depuis Niamey la région centre du G5 Sahel. Le G5 Sahel, officiellement fondé en juillet et qui a pour mission une réponse militaire régionale coordonnée aux groupes djihadistes qui se jouent des frontières, en est à ses balbutiements. La force conjointe comprend le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. Son objectif, atteindre d'ici à mars 2018 une capacité de 5000 hommes. Au Mali, au moins une dizaine de morts, dont 5 civils dans plusieurs attaques lancées dans le centre et le nord du pays par des groupes djihadistes contre les positions et convois de l'armée malienne et de ses alliés. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Le lundi 6 novembre 2017 a été un lundi noir au Mali, avec au moins une dizaine de morts dont des civils. Tôt le matin à Soumpi, un véhicule militaire a sauté sur une mine à l'entrée du camp de Soumpi, faisant un mort et 3 blessés graves. Cette attaque a poussé le premier ministre en visite dans la région de Tombouctou à reporter son déplacement dans le cercle de Niafunké. Ablaye Idrissa Maïga voulait aller voir surtout l'état sécuritaire du pays, encourager les administrateurs. Tout cela en vue de la tenue des élections régionales de décembre prochain. 30 minutes après, entre Kona et Doro, au centre du pays, un convoi de l'aménagement escorté par les FAMA est tombé dans une embuscade. Le bilan est de 5 morts, dont un militaire et 4 civils. À Ansongo aussi, région de Gao, un minibus a sauté sur une mine, bilan 4 morts, tous des civils. Les passagers partaient pour la foire hebdomadaire de Fafa. À Fatoma, un notable a été froidement assassiné à son domicile. La dernière attaque de la journée s'est passée à Gossi. Bilan, un soldat de la garde nationale a été tué, un autre blessé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, RDC, la commission électorale a publié dimanche un calendrier électoral qui prévoit plusieurs élections, le 23 décembre 2018, dont la présidentielle pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Un accord pouvoir opposition du 31 décembre 2016 prévoyait des élections avant la fin 2017. Et la publication de ce nouveau calendrier a suscité la colère de l'opposition, qui y voit une manœuvre dilatoire du régime Kabila pour rester au pouvoir. Yacouba Ouedraogo a joint Emery Damien Kalouira, président du directoire pour la transition sans Kabila.
C'est de la poudre aux yeux, une provocation totalement inacceptable. C'est donc là une stratégie supplémentaire pour maintenir en fonction un homme qui n'a plus mandat depuis un an. Monsieur Kabila, c'est donc un ancien président qui n'a plus ni légitimité ni légalité. Il tente donc de s'appuyer sur son conseiller Corneille Nangaa, qui se cache derrière la CENI, pour pratiquer indéfiniment la politique d'usure et des mensonges avérés. Et devant cette obsession, laissez-moi vous dire, cher Monsieur, que nous sommes dans l'obligation de recourir à tous les moyens possibles pour neutraliser Joseph Kabila afin de sauver la République, sauver la paix et sauver notre Constitution.
Qu'est-ce que vous entendez par tous les moyens possibles?
Si nous devons recourir à la force, nous allons recourir à la force légitime. Nul n'est au-dessus de la loi. Si nous devons utiliser la brutalité pour neutraliser M. Kabila, nous allons le faire. La coalition CCT-DNT ne reconnaît plus à M. Kabila le moindre droit d'engager la RDC.
Pensez-vous que techniquement des élections puissent se tenir quand on connaît quand même l'insécurité qui règne dans la RDC?
L'insécurité à laquelle vous faites allusion, elle est artificiellement créée. C'est l'œuvre de M. Kabila. Il essaie de créer les foyers de tension partout pour se maintenir au pouvoir. Et nous ne sommes pas dupes.
À quel moment pensez-vous qu'on puisse tenir des élections crédibles en RDC?
Il n'y aura aucune élection crédible au Congo avant la liquidation du régime de M. Kabila. On ne triche pas avec l'histoire. En 2006, Kabila n'a pas gagné l'élection. Il s'est accroché par force au détriment du vrai vainqueur. Il y a eu mort d'homme. En 2011, pareillement, il y a eu plusieurs morts. Et donc, chaque élection qui se tiendra au Congo sous le label du régime Kabila se soldera toujours par le sang. Et parler d'une élection au Congo aujourd'hui, c'est tout simplement vouloir enfoncer la guerre civile dans laquelle est en train de baigner notre pays. L'élection sous Kabila est porteuse de germes des conflits meurtrières. Et nous refusons cela. La voie avant toute élection, c'est de d'abord passer à une transition sans Kabila, une transition inclusive, comme nous l'avons prôné, et qui va, n'est-ce pas, préparer sereinement une élection crédible et incontestable. Si M. Kabila a encore un minimum de considération pour ce pays, il doit prononcer le message de son départ du palais de la nation avant le 20 décembre 2017. S'il ne part pas, nous allons l'arrêter.
Emery Damien Kalouira, joint à Bruxelles en Belgique. Afrique australe, le vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, considéré comme l'un des successeurs potentiels du président Robert Mugabe, a été limogé. Une annonce qui intervient au lendemain de la déclaration de la première dame du pays, Grace Mugabe, qui a ouvertement exprimé sa volonté de succéder à son mari. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Le ministre de l'Information, Simon Kaya Moyo, a annoncé la nouvelle, indiquant que le président Mugabe avait exercé son pouvoir de relever avec effet immédiat le vice-président de ses fonctions. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, surnommé le crocodile, faisait face depuis des semaines à de vives critiques de proches du président, dont son épouse Grace Mugabe. Il lui reprochait de prétendre avoir été victime en août dernier d'une tentative d'empoisonnement de la part de la première dame. Madame Mugabe a vigoureusement démenti. Pour le ministre de l'Information, le vice-président a systématiquement et constamment fait preuve de manque de loyauté, de manque de respect, de malhonnêteté et de manque de sérieux. Son départ intervient 24 heures après que Grace Mugabe a déclaré devant des militants du parti au pouvoir qu'elle était prête à succéder à son mari.
Pour terminer, le président Donald Trump est maintenant en Corée du Sud, deuxième étape de sa tournée en Asie. La Corée du Sud va acheter aux États-Unis des armements pour des milliards de dollars afin de faire face aux menaces de la Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire, a déclaré le chef de l'exécutif américain à l'issue d'un sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in ce mardi à Séoul. Le président Moon a confirmé les achats prévus en soulignant que Séoul avait donné son accord pour entamer des pourparlers pour se procurer des équipements américains stratégiques afin de renforcer les capacités de défense de son pays. La Corée du Sud est un allié stratégique des États-Unis qui accueille sur son sol 28 500 soldats américains. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.